de la liste des questions. La première, donc la question 19, concerne les retombées de la convention entre l'État et les communautés religieuses. C'est une question importante. Vous justifiez cette aide de l'État aux communautés religieuses en présentant trois raisons. Donc, assurer la liberté des cultes, garantir une assistance spirituelle et enfin assurer l'autonomie des cultes conventionnés. Donc, à ce propos, j'ai un certain nombre de questions que je voudrais poser. Tout d'abord, qui représente les communautés religieuses? La deuxième question, toujours, c'est quelles sont les communautés religieuses qui sont subventionnées? Autre question, est-ce que ce financement des communautés religieuses par l'État ne serait-il pas contraire au principe de la neutralité de l'État en matière religieuse? Enfin, le financement de l'État ne risque-t-il pas de réduire l'autonomie des communautés religieuses qui profitent de ces subventions? Ça, c'est les questions relatives aux communautés religieuses, donc conventionnées, financées par l'État. Là, toujours dans le cadre de la question 19, j'ai une question sur le cours vie et société, qui vient remplacer le cours d'instruction religieuse à partir des années 2016-2017. Je crois que le Grand-Duché a une position d'avant-garde sur cette question-là. C'est une expérience très intéressante. Ça consiste à ouvrir l'esprit des jeunes aux questions de l'humanité et de la société, comme vous le dites dans vos écrits, de proposer aux jeunes des pistes de réflexion pour construire leur propre point de vue en exerçant l'esprit critique. Et d'ailleurs, je signale, bien que vous ne l'ayez pas signalé vous-même dans vos écrits, que ce projet a reçu un certificat de bonne pratique par le réseau européen Global Education Network Europe, ce qui prouve quand même que c'est un projet d'avant-garde. Et donc, personnellement, je trouve que l'État devrait être encouragé à poursuivre dans cette voie. Alors, la question que je voudrais poser est la suivante. Bien que cette expérience soit récente, ce n'est pas une expérience qui a une distance, si vous voulez. Donc, elle est assez récente, elle a commencé vers les années 2016-2017. Est-ce que nous pouvons quand même avoir une idée des retombées concrètes de cette expérience, positives ou négatives? Et l'autre question que je voudrais poser, c'est cette expérience est-elle reçu favorablement ou défavorablement, autrement dit, quel est l'état de l'opinion, les familles, les acteurs de la société civile et le corps enseignant? Quelle est leur réaction? Est-ce qu'ils ont accepté cette expérience d'une manière favorable ou pas? Est-ce qu'il y a des réactions hostiles à cette expérience dans le Grand-Duché? Alors, il y a maintenant le problème de SOS radicalisation. C'est dans le cadre de la lutte contre les incidents antisémites, islamophobes, etc. D'ailleurs, je signale entre parenthèses que votre gouvernement a élaboré une stratégie nationale contre l'antisémitisme. D'ailleurs, je voudrais bien connaître le contenu et la mise en application de cette stratégie nationale. Mais je reviens à SOS Radicalisation, qui est une association conventionnée par le ministère de la Famille, de l'Intégration et de la Grande Région, qui propose, par le biais de son service www.respect.lu, qui propose donc une écoute et un accompagnement aux personnes qui sont confrontées de quelque manière que ce soit, à des extrémismes ou à des radicalisations violentes. Vous nous présentez un certain nombre de détails sur cette question-là, sur l'intervention de SOS Radicalisation dans l'assistance des victimes de la radicalisation. L'association organise également des cycles de formation, des activités de sensibilisation, vous avez cité tout ça. Donc, la question que je voudrais poser encore une fois, c'est quel est l'impact de SOS Radicalisation? A-t-il eu des retombées positives dans ce domaine-là? Est-ce qu'on assiste, par exemple, à une baisse de la radicalisation? Quel est l'impact et les retombées de cette expérience qui, à mon avis, est positive? Je passe maintenant à la question 20. Elle est relative à l'article 25 de la Constitution qui reconnaît la liberté de s'assembler paisiblement, mais qui soumet les rassemblements en plein air à une autorisation préalable. Donc la Constitution reconnaît la liberté de s'assembler, mais soumet le rassemblement en plein air à une autorisation préalable. La question que je pose est la suivante. Cette exception, qui me semble réduire la portée de la liberté reconnue par l'article 25, cette disposition est-elle compatible avec l'article 21 du pacte? Parce que l'article 21 du pacte n'établit pas de distinction entre les rassemblements, ils sont tous soumis au principe de la liberté, à la règle de la liberté. Or, cette exception, cette restriction, si vous voulez, cette restriction qui est d'ordre constitutionnel, est-elle compatible avec l'article 21 du pacte? Et je voudrais savoir également, toujours à propos de la même question, quelles sont les procédures de notification et d'autorisation des rassemblements et manifestations dans le Grand-Duché? Je vous remercie, madame.
Merci beaucoup, Monsieur Benachour. Je donne la parole maintenant à Madame Chamcha.